parents et enfants autour de la table. C'est l'heure de jouer. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et bonjour à tous, amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans C'est Ludique, votre rendez-vous hebdomadaire sur les jeux de société modernes. Alors après une petite semaine de vacances, il est temps de vous faire découvrir les derniers jeux. On est toujours confinés, les magasins sont toujours fermés, mais croyez-moi, quand ils vont réouvrir, il va y avoir de sacrées nouveautés. Alors un jeu pour les enfants, Uli et Polly, le dernier jeu de Roberto Fraga, un jeu familial avec Blockness, un jeu expert qui se joue en une heure, c'est assez rare pour le signaler. Je vous parlerai de l'excellent Dunaya de Thomas Dupont, un jeu d'enquête puisque la nouvelle série de Chronicle of Crime sort demain et on s'intéresse cette fois-ci à l'année 1900. Enfin, elle sera mon invitée à l'occasion du lancement il y a une semaine du Kickstarter Patient Zero, Alizé Dabert de chez Helvétique. Oui, désormais dans C'est Ludique, on vous parlera de temps en temps de Kickstarter. Mais pour commencer, eh bien, je vais vous présenter Tucano, le dernier jeu de Théo Rivière qui arrive dans la gamme mini de chez Helvétique. Un programme donc très chargé pour cette reprise. Il est temps de commencer ce C'est Ludique numéro 99. Oui, vous l'avez compris, la semaine prochaine, on fêtera la centième, mais on n'en est pas encore là.
C'est Ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un jeu de Théo Rivière, et là c'est un jeu qui tient dans la main. Tucano est le premier jeu de Théo dans la gamme mini des petites boîtes de chez Helvétique, un jeu de collection avec des fruits, bah, c'est important de manger des fruits. Dans ce jeu, on va placer des cartes sur la table pour former trois colonnes. Au début, eh bien, la première et la troisième colonne contiennent une carte, la deuxième deux cartes. À votre tour, vous allez choisir une des colonnes pour votre collection. Et vous allez rajouter une carte sur chaque tas pour le joueur suivant, et ainsi de suite. Vous allez avoir plein de fruits devant vous, et là je vous vois venir me dire « bah, celui qui a le plus de fruits de chaque collection remporte la partie ». Eh bien oui, mais pas vraiment, parce que vous connaissez quand même Théo Rivière, il n'aurait pas fait un jeu aussi simple que ça. Il y a quand même une petite dose de stratégie. Alors déjà dans Tucano, il existe 13 fruits et deux types de fruits. Il y a les fruits qui, selon le nombre récolté à la fin de la partie, vous permettent d'obtenir un certain nombre de points. Exemple, vous avez une noix de coco dans votre collection, bien vous allez marquer 8 points. Vous en avez 2, bah vous marquez 6 points. 3 noix de coco, c'est 4 points. 4 noix de coco, c'est 2 points. 5, ben c'est 0 points. Et 6, bah c'est moins 2. Bah oui, ça fait beaucoup trop de noix de coco pour votre estomac. On n'est pas sur Koh-Lanta non plus. Il faut varier les fruits et il y en a qui sont meilleurs pour la santé. Alors l'autre type de fruits qu'on va retrouver dans le jeu, c'est ceux qui vont vous permettre d'obtenir la majorité afin de gagner un maximum de points. Exemple, la banane. Celui qui a le plus de cartes banane marquera 2 points par carte banane. Ceux qui en ont le moins, eh bien c'est 0 points par carte. Autant dire que récupérer des bananes, c'est bien, mais il faut plutôt prendre des grappes. Alors, vous avez compris que certaines collections de fruits sont super intéressantes, alors que d'autres, beaucoup moins. Et je ne vous ai pas encore parlé des cartes toucans qui viennent pimenter le jeu. Il y a les toucans qui vous volent une carte, bah c'est pas cool, hein, puisque le joueur qui en récupère une vous pique une carte fruit de votre collection. Il y a le toucan qui vous fait un cadeau. Dit comme ça, bah ça fait toujours plaisir un cadeau, sauf que là, bah, le joueur va se débarrasser d'une carte qui le handicape dans sa collection. Et il y a le toucan qui bouffe tout. En gros, hein, plus aucun joueur ne peut vous voler de cartes. Vous allez les protéger. En effet, vous allez les retourner. À vous de vous en rappeler pour ne pas faire n'importe quoi aussi dans vos collections. Alors quand la pioche est épuisée, bien la partie s'arrête tout simplement. Chacun récupère encore une colonne et on compte les fruits. Et là, on se dit, mais pourquoi j'ai deux citrons verts? Bah ouais, direct, moins 8 points. Tucano est un petit jeu de cartes de collection. On marque des points pour le nombre de cartes obtenues et d'autres pour ses majorités. Certaines cartes rapportent plus ou moins de points et certaines en font même perdre selon le nombre que vous avez. Un petit jeu familial qui s'emmène partout pour moins de 10 euros. Il ne faut pas s'en priver, il apporte de la fraîcheur. Un jeu bon pour la santé. Enfin, ça ne vous empêche pas non plus de manger 5 fruits et légumes par jour. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes sur Millennium avec Alizé Dabert de chez Helvétique.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Je viens de vous présenter Tucano. Patience Zero vient d'arriver sur Kickstarter. Pour nous parler de tout ça, je suis avec Alizé Dabert de chez Helvétique. Bonjour Alizé.
Bonjour Mathieu.
Alors Alizé, déjà on va présenter un petit peu Helvétique. Depuis quand existe Helvétique?
Alors Helvétique, c'est une maison d'édition suisse qui a été fondée en 2008. Au départ, c'était seulement des jeux de société et depuis quelques années, on fait aussi des livres, à la fois pour les enfants et pour les adultes.
C'est ça, hein, vous n'éditez pas que des jeux, il y a aussi des livres. Vous êtes combien à travailler?
On est, je dirais, une douzaine Là, en ce moment, on a des stagiaires qui nous ont rejoints, donc on est un peu plus nombreux, mais en général, on est une douzaine. Et puis, c'est assez multiculturel, j'allais dire.
Ouais.
On est plusieurs Bretons dans l'équipe.
Ah, bah, ça, c'est bien.
C'est très important, c'est primordial. Il y a des gens qui viennent d'Allemagne, de Suisse, forcément aussi. Et voilà, et donc, ça parle un peu plein de langues. Et voilà, c'est un chouette cadre de travail pour développer tous ces projets qu'on vend aussi à l'étranger.
Et alors toi, tu es bretonne, comment t'es arrivée en Suisse ?
Alors moi, je suis venue en Suisse pour rejoindre mon compagnon.
D'accord.
En Suisse. Et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui sont venus comme ça en Suisse depuis la France. Je passe d'ailleurs un petit coucou à mes parents qui sont à Saint-Père.
D'accord, on va leur passer un petit coucou également.
Mais voilà, on est tous venus pour des raisons différentes et aussi tous par passion du jeu. Et c'est comme ça qu'on a intégré cette équipe.
Tu jouais beaucoup avant d'arriver chez Helvetic ?
Oui, moi j'ai toujours beaucoup joué. C'était plus un loisir. Et puis c'est vrai qu'on ne se dit pas forcément quand on joue à des jeux de société que ça peut être un métier. Mais c'est un métier, on peut être illustrateur, auteur, éditeur. On peut travailler à la fabrication des jeux. Il y a plein de métiers possibles autour des jeux de société. Et c'est vraiment un chouette milieu.
Quelle est la ligne éditoriale de chez Helvetic ?
Je dirais que nos livres et nos jeux sont plutôt pour un public familial.
Mmh.
Donc ça va être des livres, des jeux qui vont permettre de passer des bons moments en famille avec des enfants parfois des 4 ans, parfois des 6 ans. Et pour les jeux, ce qui nous tient très à cœur, c'est que les règles soient simples et
ouais.
Que ce soit facile pour les gens de rentrer dans le jeu, de faire une première partie sans que ce soit trop compliqué. Et puis après, de continuer à y rejouer, souvent prendre du plaisir à rejouer toujours à nos jeux, que ce soit pas juste pour une ou deux fois, mais qu'ils restent sur l'étagère et qu'on les ressorte de temps en temps.
On le voit bien chez Helvetic, il y a plusieurs gammes bien définies.
Oui, on a la petite gamme de poche avec Bandido. C'est des jeux qui sont à 10-11 euros. Et Tucano est le dernier justement dans cette gamme-là.
Ouais.
Et puis après, on a des jeux en bois aussi, comme Team Up ou Stacker. Et puis après, on a des jeux plus OVNI, et c'est le cas de Save Patient Zero qu'on a lancé sur Kickstarter la semaine dernière.
Alors justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de festival pour faire connaître ces jeux, le fait de le lancer aujourd'hui sur Kickstarter.
Alors oui, ça a été une des raisons, parce qu'on aime bien justement avoir le retour de nos partenaires, de blogs, de joueurs qui nous suivent à l'occasion des salons. Ce jeu-là, on a commencé à le tester à Cannes, donc avant que tout ferme,
ouais.
C'était vraiment encore très tôt. Et là, le Kickstarter, ça nous a justement permis de contacter des gens avec qui on n'a pas forcément de contact d'habitude. Je pense à des blogueurs dans plein de pays qui nous ont fait leur retour sur le jeu. Et puis, on va demander aussi à la communauté Kickstarter de participer. Parce qu'actuellement, il y a un certain nombre de cartes. Il y a 10 cartes outils dans ce jeu. Et on va leur proposer, s'ils le veulent, de nous aider à en créer davantage ou de choisir, puisqu'on en a déjà certaines en tête, de choisir celle qu'ils préfèrent tout simplement pour la sortie du jeu.
Alors on va parler plus en détail du jeu après, mais est-ce que Patient Zero n'aurait pas pu sortir sans cette plateforme ?
Alors le jeu aurait pu sortir sans cette plateforme, sans doute pas sans doute peut-être moins abouti que ce qui va être le cas maintenant grâce aux commentaires apportés par les blogs et par tous les testeurs du jeu. Une chose qui est importante pour nous pour cette campagne, c'est qu'elle permet surtout de financer une application
ouais.
qui va permettre de remplacer le maître du jeu. Actuellement, on joue avec un maître du jeu et deux équipes qui s'affrontent. Et avoir cette application, ça permettra de jouer tout seul contre l'ordinateur ou de jouer à deux sans avoir à faire le maître du jeu pour l'autre. Donc ça permet aussi à des... Voilà, surtout en ce moment où c'est pas forcément pratique de se réunir, de pouvoir continuer à jouer au jeu et de pas être bloqué parce qu'on n'est pas 2, 3 ou 4.
Alors pour expliquer un petit peu Patient Zero, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de mastermind ?
On peut dire ça, ouais, c'est un jeu de déduction.
Ouais.
Les deux équipes ont 25 molécules et ils doivent en éliminer 22 pour trouver un antidote. Et ils vont avoir à leur disposition des outils, soit sous la forme de cartes, soit sous la forme d'objets, qui vont leur permettre d'éliminer les molécules. Et l'ordre d'utilisation de ces outils va permettre d'être plus ou moins efficace, forcément, plus on joue, plus on maîtrise les outils et plus on va savoir comment les utiliser au mieux.
Ouais.
Mais il y a aussi une part de chance, puisque ces molécules, elles sont numérotées de 1 à 25, elles peuvent être n'importe où. Et donc, si vous avez, par exemple, 2, 4, 6, ça ne va pas être du tout la même partie que si vous avez 1, 13 et 22.
Ouais.
Donc, cette façon aléatoire de déterminer l'antidote au début du jeu va aussi faire que les outils, même si vous avez un ordre un peu prédéfini en tête pour les utiliser, en fait, des fois, ça peut tomber à l'eau. Des fois, vous allez en utiliser un et pas avoir du tout le résultat que vous attendiez. Donc, ça permet d'avoir des parties à chaque fois assez différentes et d'avoir un bon rythme, puisque ça reste compétitif. C'est le premier qui trouve l'antidote qui gagne. Donc, voilà, il y a un petit facteur de stress pour...
C'est ça, exactement.
Pour plus vite.
Et alors, on parlait du maître du jeu qui a un rôle important, puisque c'est lui qui va donner les cartes, c'est lui qui va faire un petit peu toutes ces choses-là. C'est un rôle, finalement, que les gens aiment bien jouer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi.
Mm-hmm. Oui, c'est la première fois qu'on fait un jeu avec un maître du jeu. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On avait un peu peur au début que le maître du jeu s'ennuie, comme ça peut être parfois le cas.
Mais oui.
Là, il est vraiment tout le temps actif, puisque c'est lui qui va en permanence interagir avec les deux équipes. Et c'est vrai qu'on a eu des bons retours, et même il y a des enfants qui nous ont dit que eux, en fait, ça ne les intéressait pas de chercher l'antidote. Eux, ils veulent être maître du jeu. Ils trouvent ça plus rigolo de regarder ce que les autres font,
c'est
et
ça.
Puis est-ce qu'ils se trompent, et puis de savoir aussi du début de la solution et d'aider les autres.
Et puis on peut y jouer donc à deux sans maître du jeu aujourd'hui, sans application. Et là, on est sur un sorte de toucher-couler un petit peu.
C'est ça. En fait, dans cette variante-là, les deux joueurs ne vont pas chercher la même chose. Donc chaque joueur va être le maître du jeu pour l'autre. Et donc, ça rallonge un peu les parties parce que voilà, à chaque tour, il faut jouer son action, aider l'autre et puis réfléchir à sa propre action pour le tour suivant. Donc ça change un peu la dynamique, mais ça peut aussi être intéressant pour voir, des fois on est surpris, on s'attend à ce que l'autre fasse quelque chose, et puis en fait pas du tout. Et donc ça donne aussi une autre dimension, toujours interactive, mais voilà, c'est plus tout à fait une course.
Donc là, le jeu a été lancé il y a une semaine sur Kickstarter, on est à peu près à 9 000 $. Il faut combien pour que le jeu sorte?
Alors, pour nous, je crois qu'il est financé, alors je ne sais plus, entre les dollars et les euros, je suis un peu perdue, ça va être autour de 10 000 euros.
Ouais.
Et à partir de 10 000 euros, ça va débloquer aussi un certain nombre de stretch goals, enfin, c'est des objectifs.
Ouais.
Et donc, il y aura parmi ça l'application, forcément, et puis il y aura aussi peut-être des petites choses qu'on va ajouter à la boîte, peut-être des outils supplémentaires, ou peut-être des petits goodies, des petits cadeaux comme ça.
Qui seront rajoutés. Et après, le jeu sortira aussi en boutique?
Alors, on l'espère. Pour nous, la priorité pour le moment, c'est...
C'est le Kickstarter.
Voilà, c'est le Kickstarter. On espère que les gens pourront l'avoir en septembre.
Ouais.
C'est une fabrication en Europe, donc a priori, c'est faisable. Et puis, on aimerait qu'il soit en boutique avant la fin de l'année. Voilà, on verra un peu aussi comment ça se déroule en fonction des temps de fabrication et puis de stretch goals qu'on ajoute ou pas à la boîte.
Alors, on connaissait donc plus Helvetic pour la gamme mini. Est-ce que vous allez en faire d'autres, des boîtes comme ça, comme Passion Zéro?
Alors, Passion Zéro, c'était vraiment un coup de cœur.
Ouais.
Donc, c'est un projet un peu OVNI pour nous. On en fait des fois. Pas de pitié pour les monstres. C'est un jeu pour enfants des 4 ans. C'était aussi un OVNI complètement dans un format vraiment différent.
Ouais.
On n'est pas fermé. Voilà, je dirais qu'on reste ouvert. Pour l'instant, on ne prévoit pas de lancer une gamme ou une collection dans ce format-là ou de jeux de déduction. Mais on n'est jamais fermé au... Voilà, si un auteur vient vers nous avec un jeu qui correspond bien à notre ADN, je dirais, on le regardera et on essaiera. Et si vraiment il nous plaît, voilà,
s'interdit rien. Quoi. Ouais.
C'est ça, en fait, on est dans une petite structure, donc on teste des jeux. Alors, pas tous ensemble, mais souvent une bonne partie de l'équipe y joue avant qu'on se décide. Et donc, si on est une majorité à être vraiment convaincu par un jeu,
ouais,
même s'il ne rentre pas dans une catégorie, s'il nous plaît vraiment,
ouais,
il peut le faire. Ouais.
Si on va revenir sur la gamme des petites boîtes, et s'il fallait en garder une, ça serait laquelle et pourquoi?
Ça c'est dur. Alors, c'est assez dur parce qu'ils sont vraiment tous différents.
Ouais.
Bandido, ça reste vraiment l'incontournable. Mmh. S'il fallait en garder qu'une et qu'on était tout seul sur une île déserte,
ouais, voilà.
Celui-là ou Bandida, parce qu'on peut y jouer tout seul.
Ouais.
Voilà. Et puis sinon, le petit dernier, Tucano, moi je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve ses illustrations vraiment super fun. C'est des illustrations de Odile Saja. Et voilà, elle a donné un ton et des couleurs au jeu qui sont vraiment super sympas, très drôles. Et j'aime vraiment beaucoup celui-là aussi.
C'est la première fois d'ailleurs que vous travaillez avec Théo Rivière. Comment ça s'est fait?
Oui, c'était la première fois. En fait, c'est un auteur qu'on suit forcément pas mal depuis un petit moment. Et puis, on l'avait rencontré sur un salon.
Ouais.
Et il avait un peu regardé nos jeux. Et on lui avait dit, si j'avais tu as un jeu pour nous qui pourrait correspondre notamment à la gamme Pocket, n'hésite pas à l'envoyer. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Il a regardé un peu qu'est-ce qu'on avait dans nos jeux. Il nous a envoyé Tucano, qui était vraiment fait pour la gamme Pocket,
ouais,
avec
complètement.
Le nombre de cartes adaptées, des règles accessibles dès 6 ans. Voilà. Et puis, il nous l'a envoyé, on l'a testé, et puis on a un peu... on n'a pas changé. Je crois qu'une des seules choses qu'on a dû changer, c'était la carte Joker, qui
maintenant
est un arc-en-ciel.
Ouais.
Mais sinon, c'était vraiment pile-poil... le poil pour nous. Voilà, et on espère forcément qu'il peut-être continue à travailler avec lui selon son agenda et puis ses projets à venir. Là, je crois qu'il a 2 autres projets en cours en ce moment, au moins. Donc,
d'accord.
Donc.
Il y a aussi une nouvelle gamme qui avait débuté avec Omerta, des jeux un peu destinés, on va dire, plus adultes.
Oui, avec Omerta, Captain Bluff et Compromat.
Ouais.
Et on en aura un quatrième qui sortira en octobre de Rainer Knizia.
Ah oui.
Sur le thème des œuvres d'art. En fait, il faut imaginer qu'il y a eu un peu comme Ocean Eleven. On a fait un casse,
ouais.
Récupéré plein d'œuvres d'art dans des musées. Et maintenant, c'est le moment de partager le butin.
D'accord.
C'est là que tout se complique. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on... C'est un peu le décor de ce jeu-là qui sortira en octobre.
Qui sortira au mois d'octobre. Comment tu vois la suite pour Helvetic dans le monde du jeu?
Alors, dans le monde du jeu, c'est vrai, c'est... Je réfléchis à la fois pour la France, mais aussi pour l'international, parce
ouais.
qu'on est dans 30 pays. Donc chaque pays a un peu ses gammes préférées et puis ses chouchous. On continuera les pockets, c'est sûr. On continuera aussi les after dinner.
Ouais.
Et puis, voilà, maintenant, on a peut-être un peu plus d'assurance pour faire des jeux OVNI, comme Patient Zéro ou comme Pas de pitié pour les monstres. Donc, voilà, je pense qu'on va continuer un peu sur notre lancée et puis essayer d'avoir des petites pépites d'originalité comme ça tout au long de l'année.
Eh ben, merci beaucoup, Alizé, d'avoir été sur Millennium et on aura certainement l'occasion de se reparler prochainement.
Merci beaucoup.
Au revoir, Alizé.
Au revoir.
Pour la musique, voici Thérapie Tapsi avec Été 90. On se retrouve juste après.
Ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors, quand on parle de petits jeux, ben il y a Uli et Polly, le nouveau jeu de Roberto Fraga, édité par Blue Orange. Alors, on fait les petites présentations. Uli est un petit loup qui se déguise en mouton, et Polly, c'est le petit chien qui surveille les moutons. Et il n'apprécie pas qu'un loup se cache, car il compte bien rendre le troupeau en entier à son maître. Alors, Uli et Polly, c'est un petit jeu de stratégie semi-coopératif et aussi de bluff. Un joueur joue le loup qui se cache parmi les moutons, et les autres joueurs jouent le chien qui vont devoir le déplacer dans les champs à tour de rôle d'une tuile sur une autre tuile. Alors, au niveau matériel, des tuiles rondes de très bonne qualité avec des moutons tout mimi sur leur étau tous différents et un petit chien en bois. Alors, comment on joue? Vous posez sur la table les 16 tuiles moutons en 4 lignes et 4 colonnes. Sur l'une d'elles, il y a le loup que l'un des joueurs va cacher. Pendant ce temps, les autres joueurs ferment les yeux. Il va donc retirer l'une des tuiles moutons pour mettre le loup à la place, bouger toutes les tuiles pour éviter que les joueurs trouvent le loup trop rapidement. Bah oui, parce que si vous en avez bougé qu'une, forcément, les joueurs vont tout de suite voir que c'est celle-ci que vous avez bougée. Alors une fois que tout est en place, les joueurs peuvent ouvrir les yeux. Les joueurs ensemble décident de poser le chien sur l'une des tuiles. Une fois posé, eh bien c'est au premier joueur de déplacer le chien. Le chien se déplace d'une case dans le sens qu'il souhaite, mais il ne saute pas par-dessus un mouton. En gros, il se déplace sur les tuiles à côté de lui. Le joueur retourne le pion sur lequel Polly s'est posé. S'il a trouvé le loup, bah c'est fini. Et tous les joueurs qui jouent à Polly le chien ont gagné. Ils reçoivent un os qui correspond à un point. Et comme dit la chanson, si le loup y est pas, eh bien il ne nous mangera pas. C'est surtout que le jeu continue. La recherche continue avec le joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit au tour du loup de jouer. Lorsque c'est son tour, le joueur peut échanger deux moutons qui se trouvent l'un à côté de l'autre. On peut changer avec un mouton déjà découvert, mais pas s'il y a le chien dessus forcément. Pour gagner, l'équipe du chien Polly doit découvrir le loup avant la 8e tuile découverte. C'est pas si évident de ça, vous verrez. C'est un jeu pour les enfants, mais les adultes apprécient également. Par contre, si le loup n'a pas été trouvé à la 8e tuile, eh bien c'est le loup qui remporte le point. La manche se termine et le loup se déplace au voisin de gauche. Tous les joueurs doivent jouer le loup au moins deux fois, hein, tout dépend du nombre de joueurs. Le gagnant est celui qui a remporté le plus de points, tout simplement. Voilà. C'est Johan qui a joué à Ulysse et Polly et nous le présente. Bon, alors Johan, il n'est pas très content en ce moment parce qu'il n'a pas de jingle à son nom. Alors, il a dit qu'il voulait un jingle à son nom, donc ça sera fait pour la rentrée. Mais en attendant, il fait ses propres jingles.
Johan.
Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors Johan, on vient de jouer à quoi?
À Ulysse et Polly.
Et alors, c'est qui Ulysse et qui Polly?
Ulysse, c'est le loup et... Polly, c'est le chien.
D'accord. Alors toi, tu as joué Ulysse ou Polly? Ou t'as fait les deux?
Les deux.
Et t'as préféré quoi? Le chien ou le loup?
Le chien.
Le chien. Qu'est-ce qu'il fait, le chien?
Il cherche le loup.
Et c'est facile à trouver?
Il est déguisé en mouton et on doit essayer de le trouver. Et le loup, en fait, il a une tuile.
Ouais.
Et l'autre, elle est à côté. Celle qu'il veut, il l'échange de place.
D'accord. Alors du coup, il change un petit peu tout. Donc c'est pas évident de le retrouver.
Ouais, des fois, ils changent pas que le loup.
Et alors, tous les autres joueurs sont les chiens, alors?
Oui.
Et chacun votre tour? Vous faites quoi, alors?
Polly, on cherche le loup.
Et comment on cherche le loup?
Eh ben, on a une figurine chien.
D'accord.
Eh ben, elle peut aller sur les moutons.
D'accord.
Pour voir si on a trouvé le loup.
Et si tu retournes et que c'est un mouton?
Ben, t'as rien.
D'accord, et on continue.
Et aussi, quand t'as trouvé le loup, t'as un os.
T'as un os?
Oui. Ça te compte ton point, quoi.
Si le loup est pas trouvé au bout de 8 tuiles retournées, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, t'as perdu.
Et qui a gagné alors?
Bah, le loup.
Merci, Johan.
À bientôt.
Alors, vous avez tous joué à Blocus, un jeu avec des polyominos où chaque joueur a sa couleur et où vous devez bloquer les autres sur un plateau. Vous avez entendu parler de Snake, le jeu du serpent que l'on avait sur nos téléphones portables alors au début des années 2000, à vrai dire, hein, c'était le seul jeu souvent présent. Hein. Et bien en 2021, voici Blockness, le jeu qui fait un mix des deux et qui sort chez Blue Orange d'ici le mois de mai, hein, dans quelques jours normalement, un jeu de Laurent Escoiffé. Alors ici, nous avons un grand plateau représentant un grand lac avec des petits trous. Selon le nombre de joueurs, vous ne jouerez pas sur toute la surface du lac, hein, c'est indiqué par la couleur bleue plus ou moins foncée. Chaque joueur a 12 pièces plastiques représentant son monstre du Loch Ness, hein, Nessie. Loch Ness est un jeu de placement. À chaque fois que vous placerez un anneau pour agrandir votre monstre, vous devrez déplacer soit la tête ou soit la queue à l'extrémité de la pièce que vous venez de placer. Alors comment on joue? Bah, chaque joueur choisit sa couleur, noir, violet, orange ou vert. Puis le plus petit joueur en taille commence, autant dire que je ne commencerai jamais. Au début, les joueurs à tour de rôle vont placer un des anneaux, celui qui est le moins haut, et on y place la tête et la queue. Alors le but du jeu sera de placer ces 12 anneaux, plus ou moins haut et plus ou moins long. Celui qui en a posé le plus remporte la partie. Oui, mais c'est pas si facile que ça, hein. Malgré que ça soit un jeu familial, il faut réfléchir avant de poser un anneau. En plus, il y a des règles de pose. Vous ne pouvez poser un anneau que sur l'un des trous du plateau adjacent à votre tête ou à votre queue. Vous avez le droit de passer au-dessus des autres anneaux de votre couleur, mais aussi de ceux de vos adversaires. En revanche, vous ne pouvez pas passer en dessous. On ne passe pas non plus au-dessus d'une tête ou d'une queue, puis il est interdit de poser ces anneaux en diagonale. Hein. Une fois que vous avez respecté ces règles, vous récupérez la tête ou la queue de votre monstre que vous placez sur le nouvel anneau qui vient d'être posé. Bloodness est un vrai casse-tête où vous allez tout faire pour bloquer vos adversaires. Le jeu se termine lorsqu'un joueur a fini son monstre ou que tout le monde est bloqué. Le gagnant est le joueur ayant le moins de pièces restantes. En cas d'égalité, c'est le joueur dont la tête est la plus haute sur le plateau qui gagne. Bloodness est un vrai coup de cœur familial où l'on a le plaisir à enchaîner des parties et à tout faire pour bloquer les autres et aussi à entendre les autres dire « Ah non, je peux plus bouger ma tête !» ou « Tu vas quand même pas mettre ta pièce à cet endroit !» Mention spéciale pour la qualité du matériel. Jeu rapide avec une bonne rejouabilité. Et donc, ça sort d'ici quelques jours chez Blue Orange. C'est Maëlle qui a joué à Bloodness.
Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Alors Maëlle, on vient de jouer à quoi ?
À Bloodness.
Alors Bloodness, c'est une stratégie, il faut arriver à bloquer les autres ?
Ouais, mais c'est avec le monstre du Loch Ness. Et du coup, chacun a son monstre d'une couleur différente sur un plateau avec les trous.
Ouais.
Et ben donc on va il y aura la tête et la queue. Et si on met du côté de la queue, enfin la suite de son corps, on déplacera la queue.
D'accord, donc chacun a son monstre mais en plusieurs pièces.
Ouais, et après des pièces différentes, des grandes hautes, des petites hautes, des petites basses, les grandes basses.
D'accord, et on a le droit de passer en dessous celle des autres ?
Non, que au-dessus.
Et alors, c'est facile, c'est dur, c'est comment ?
Faut avoir un peu une stratégie.
D'accord, alors c'était quoi toi ta stratégie ?
De bloquer les autres. Des fois, quand ils vont trop près du bord, tu les bloques en mettant quelque chose au-dessus de eux, comme ça ils peuvent pas se déplacer.
D'accord, donc ça c'était ta stratégie. C'est un jeu que t'as aimé ?
Oui. Tu peux mettre tes pièces soit autour de la queue, soit autour de la tête.
Merci Maëlle.
Si ludique, ça vient de sortir.
Dunaya est le nouveau jeu de Blam dont l'auteur est Thomas Dupont, un jeu expert mais qui se joue en une heure. C'est plutôt rare et parfois c'est appréciable quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi et qu'on a envie de jouer à un gros jeu. Les Dunaya, ce sont des êtres en acier, en gros ce sont des robots qui fonctionnent grâce à une énergie particulière qui s'appelle les fleurs de métal. Vous, en tant que joueur, vous allez être des chefs de tribu avec un but bien précis, protéger les Dunaya. Pour ça, vous allez construire des bâtiments, réaliser des prophéties, récupérer des artefacts des anciens et bien entendu, les fleurs de métal. Dunaya mélange plusieurs mécaniques comme la programmation, l'anticipation, récupérer des objectifs, du placement, mais la principale action du jeu, c'est le draft de dés. La mise en place du jeu est très rapide, chacun récupère un plateau personnel avec 9 emplacements pour placer les bâtiments. Ils sont de 3 niveaux, on va y revenir, chaque joueur récupère 2 fleurs de métal, les 6 Dunaya que vous placez sur votre plateau et les 3 marqueurs construction de notre couleur, ainsi que 6 puces de mémoire pour faire fonctionner nos robots. Alors voilà, vous êtes prêts à jouer, le premier joueur va lancer les dés noirs, mais qui sont blancs dans la première édition, donc je vais parler plutôt des dés blancs, ça sera plus simple, et il y a aussi les dés de couleur. À votre tour, vous prendrez un dé blanc, quand il n'y a plus de dé blanc, vous prenez celui qui correspond à votre couleur. Quand il n'y a plus de dés disponibles, on les relance tout simplement. La valeur du dé permet de réveiller le Dunaya du même chiffre. Une fois réveillé, il va pouvoir faire 2 actions qui correspondent aux emplacements qui lui sont adjacents. Car les Dunaya se trouvent toujours entre 2 emplacements, qu'ils soient d'ailleurs vides ou qu'ils soient construits avec des bâtiments. Le dé, ensuite, on va le recycler. Parce que les Dunaya n'ont pas besoin de toute l'énergie. Alors, soit on le recycle sur l'une des cases du plateau principal, soit sur un bâtiment de niveau 1 de notre plateau, ou même celui de notre adversaire. Mais dans ce cas, il faudra lui donner une fleur de métal. Il vous rend un petit service, mais c'est pas non plus gratuit. En recyclant votre dé, vous pourrez récupérer une ou des fleurs de métal, insérer une ou des puces, ou encore déplacer un ou plusieurs Dunaya, voire même avancer aussi la construction de l'un de vos bâtiments. Pour les bâtiments, faudra les acheter par l'une des cases de recyclage du plateau en échange de plusieurs fleurs de métal et ensuite les construire petit à petit en activant plusieurs fois les Dunaya adjacents afin de faire avancer votre marqueur de construction jusqu'à atteindre le dernier. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner le bâtiment qui vous permettra d'avoir un nouveau pouvoir. Important, les bâtiments de niveau 1 ont un pouvoir principal qui s'active par le recyclage d'un dé. Ceux de niveau 2 activent leur pouvoir par un réveil de Dunaya, mais seulement si sur chaque côté actif, le bâtiment adjacent est de la même couleur. Ceux des bâtiments construits permettront de récupérer des fleurs de métal, de déplacer les Dunaya ou d'enficher des puces de mémoire. Le bâtiment de niveau 3, eh bien, ils n'ont pas de pouvoir, mais vous pourrez gagner des points de victoire si ces bâtiments de même couleur sont adjacents. Et il y a aussi des bâtiments multicolores qui permettent aussi de changer les couleurs. Alors parfois, vous aurez besoin d'aide et vous pourrez faire appel aux anciens pour récupérer une partie d'artefacts pour en faire un complet. Il en faut 3, mais pour ça, il faudra que les puces mémoire soient insérées sur votre plateau. Si pour récupérer un artefact et obtenir un pouvoir, il vous faut une puce 3 et 4 et qu'elles sont en fichier, vous pouvez récupérer l'artefact en les déconnectant. En fin de tour, si le joueur actif réunit les conditions d'une ou plusieurs tuiles prophétie du plateau central, il les place devant lui. Parmi les prophéties, l'une d'elles vous dit d'avoir par exemple 12 fleurs de métal, une autre 8 bâtiments construits. La partie se termine si soit un joueur a construit son 9e bâtiment ou si la dernière prophétie est réalisée. À la fin, on calcule les points en fonction des artefacts, des prophéties, des bâtiments construits et des fleurs de métal. Dans Dunaya, il faudra programmer nos actions, des règles simples à assimiler pour un jeu expert, mais un jeu profond dans la réflexion. Ça arrive chez Blam dès que les boutiques de jeux vont réouvrir. Et c'est Anne-Marie qui a joué à Dunaya. Elle vous explique sa stratégie.
Dunaya, on immerge rapidement dans l'ambiance du jeu. Entre notre plateau individuel et le plateau commun, il faut bien appréhender toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Ma stratégie s'écrivait ou se dessinait plutôt en fonction du tirage au dé et de ma place dans le tour du jeu. Il ne faut pas oublier que le premier joueur bénéficie d'un tour supplémentaire. J'ai également essayé de choisir des cartes bâtiments de niveau 1 et 2 qui pouvaient m'intéresser dans les actions et offrir des puces, fleurs ou autres déplacements. Le choix des cartes est primordial. J'ai aussi privilégié l'appel aux anciens qui déclenche l'action qui a été piochée au départ et aussi un morceau de fragment. Il ne faut pas se concentrer sur une seule chose mais essayer d'évoluer suivant toutes les possibilités qui s'offrent à nous. À vous de jouer pour obtenir le plus de points.
C'est ludique, ça vient de sortir.
Et pour finir ce C'est ludique, voici Chronicle of Crime 1900. C'est le nouveau jeu d'enquête de Lucky Dead Games. C'est le deuxième jeu de la série millénaire après 1400 et avant 2400. Voici donc 1900. Alors vous êtes Victor Lavelle, un jeune journaliste, et vous travaillez pour un grand journal à Paris. C'est ce qu'on appelle la belle époque. Beaucoup de choses se passent, l'exposition universelle, les Jeux Olympiques, mais vous... Ce qui vous intéresse, ce sont les crimes. Et chez les Lavelle, eh bien, vous faites ça de père en fils depuis le Moyen-Âge. Alors Chronicle of Crime 1900 est un jeu où vous allez utiliser la technologie de vos smartphones, même si à cette époque, il n'existait pas. Car vous verrez que chaque carte, lieu, objet, personnage, indice a un QR code que vous allez scanner pour en savoir plus sur l'enquête. Mais avant, il faudra bien entendu télécharger l'application et aussi choisir le bon scénario. Il y en a 4 au total avec un tutoriel qui vous explique un petit peu comment scanner, comment visiter les lieux, comment interroger les personnages, comment vous immerger sur la scène du crime. Dans Chronicle of Crime, il n'y a pas vraiment de temps, mais la journée avance quand même. Chaque interrogation vous prendra 5 minutes et chaque changement de lieu 20 minutes. Il faut donc quand même faire attention au temps. Par exemple, un personnage vous dira de le rejoindre avant minuit, car après ça ferme et l'article ne pourra pas paraître à temps. Vous ne pourrez vous rendre dans certains lieux qu'après avoir échangé avec certains personnages. À un certain moment, il faudra fouiller la scène de crime. Avec votre smartphone, vous allez zoomer sur les éléments, le faire bouger. Vous allez décrire aux autres joueurs ce que vous voyez. Et eux, pendant ce temps, ils vont chercher des cartes objets qui pourraient correspondre à ce que vous dites. Il suffit de les scanner pour voir si ces objets peuvent faire partie des indices. Dans ces cas-là, vous les placez sur le plateau dans la zone rouge, ce sont des indices qui ont été validés. Chaque élément trouvé comme les objets, vous les placerez sur le plateau central. Ils se placeront dans la zone bleue si vous ne les avez pas, mais qu'on vous en a parlé. En cours d'enquête, ces objets pourront changer de place, d'ailleurs comme les personnages. Dans le cas où vous les avez avec vous, il faudra les placer après dans la partie rouge. Idem donc avec les personnages, ils iront en dessous des plateaux lieux. Si vous savez où ils se trouvent, après, eh bien vous les placerez sous les lieux. Alors n'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez aller voir Charlotte, qui peut vous aider à avancer dans l'enquête. Vous verrez que parfois, certains indices font penser aussi à de l'escape room. Alors, vous vous en doutez, je ne suis pas là pour vous dire qui est le meurtrier, mais comment fonctionne ce jeu d'enquête. Je ne pourrais pas dire si j'ai préféré cet opus à 1400, car je n'ai pas joué à 1400. Je n'ai pas fini non plus les 4 enquêtes, mais je peux déjà vous dire que Chronicle of Crime 1900 offre une nouvelle façon d'appréhender ce style de jeu d'enquête. Quand vous pensez être prêt, À force d'interroger des personnages et de rassembler des objets, vous avez toutes les ficelles de l'enquête. Vous allez vous rendre sur le lieu de départ, à la salle de la rédaction. Il suffit de cliquer sur le bouton « Résoudre l'enquête » et là, on vous posera des questions comme « Qui est le meurtrier ?» forcément. Pour ça, il suffira de scanner le personnage. À la fin, on vous donnera votre pourcentage sur 100 par rapport à vos réponses. La meilleure config pour jouer, je pense que c'est 2-3. Il faut savoir que dans ce jeu, vous allez utiliser beaucoup le téléphone portable puisque toutes les cartes ont un QR code. Je vous conseille d'ailleurs de jouer et de prendre une tablette. C'est beaucoup plus agréable quand on est plusieurs joueurs. Chronicle of Crime 1900 vous offre une nouvelle expérience ludique. Voilà, c'est ludique, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la centième, oui, la centième de C'est Ludique avec pas mal d'invités. Et on parlera des jeux autour, notamment d'ambiance et de la communication. On espère en tout cas qu'on pourra tous bientôt se retrouver pour faire tous ces jeux. Mais en attendant, vous pouvez les tester en famille. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, à la semaine prochaine. Salut, jouez bien.